Après avoir fait le choix donc, de quitter les Nuits Magnétiques, qu'est-ce qui s'est passé à Mediel Hadj ?
Alain Truta, qui était un responsable de programme respecté, qualifié, enfin, qui était quelqu'un d'une très forte personnalité de la radio, que tous les poètes du monde entier connaissaient d'ailleurs, c'était un homme de très grande envergure, m'avait confié une fiction à faire en tant que chargé de réalisation, alors que les fictions sont statutairement données aux réalisateurs. Mais parce que c'était une fiction particulière, il s'agissait de réunir 5 comédiens qui devaient improviser. Et ces gens-là, je crois, ont participé ou ont créé plus ou moins la Ligue française d'improvisation. Donc il y a eu 5 émissions à faire avec ces 5 comédiens pour lesquels j'avais ouvert un dispositif un peu différent de la fiction. Souvent, dans une fiction, le comédien est un lecteur qui peut interpréter, qui peut jouer. Mais il est en général devant un micro et il lit un texte. Là, pas de texte, ce sont des ils improvisent. Donc, et comme ils sont plusieurs à improviser, il faut être sûr qu'ils s'entendent bien. Donc ce qui m'a paru, moi, une innovation, mais je crois que c'en était une dans ce domaine-là, c'est que je leur ai mis un casque à chacun et un micro à chacun. Et ils se sont disposés en demi-cercle pour se voir et bien s'entendre. Et eux m'ont demandé de perturber leur improvisation par mes improvisations. Donc c'était la première fois quand même que des comédiens demandaient que du côté de la cabine, on fasse quelque chose. D'habitude, on capte, quoi, on prend. Mais là, il fallait donner. Et c'était, alors je l'ai fait timidement la première fois, mais je l'ai fait et c'était assez étonnant parce qu'à chaque séance, donc en direct, on était en direct sur l'antenne, c'était pas du tout enregistré, c'était improvisé, sans texte et en direct. Le studio se remplissait des gens des bureaux qui descendaient pour voir quand même qu'est-ce qui se passait, quoi. Et puis il y a eu un mouvement, c'est pour aussi parler d'un certain climat à la radio, il y a eu un mouvement de réalisateurs, pas de tous, heureusement pas de tous, qui m'ont reproché de faire des fictions, quoi. Alors, ils ont Truta fini par céder, moi je vais avoir autre chose à faire. Il leur a dit, bon ben, continuez, reprenez la suite. Donc ils ont voulu faire la suite, mais ils n'ont pas accepté le fait qu'il n'y ait pas de texte. Mais comme c'était une improvisation, il ne pouvait pas y avoir de texte. Donc la série d'émissions s'est arrêtée. Alors là, on devait être en 83. Les recettes découvertes ou utilisées au numérique, je les ai transposées quand c'était possible dans d'autres émissions. Puisque ça fonctionnait pour les nuits, pourquoi ça ne fonctionnerait pas, par exemple, pour le Bon Plaisir, émission que j'ai fait après ces diverses émissions. Donc j'ai fait le Bon Plaisir à partir de 1985, ou jusqu'à 85, je ne me rappelle plus, 83-85, j'ai fait en gros entre 20 et 30 Bon Plaisir, beaucoup sans intérêt. Sans intérêt pour moi, parce que le projet n'était pas précis. Là, je parle vraiment de projet, parce que c'était une émission dont la direction nous avait dit, et m'avait dit à moi personnellement, quand j'étais recruté, parce que je n'étais pas le premier à être recruté. Hein. Il y avait Pamela Dousseau, qui était une grande dame de la radio, qui a été recrutée la première, qui a fait la première émission avec Marguerite Duras. Il faut rappeler que c'est une émission qui faisait 3h30. C'est un format qu'on n'a plus du tout l'habitude de penser, de concevoir et de consommer, c'est pour aller vite. Hein. Bon, moi, j'ai débarqué et on m'avait dit, le projet, c'est, on choisit quelqu'un, nous, Radio France, France Culture, et ce quelqu'un choisit qui veut voir et fait à peu près l'émission qu'il veut, qu'il a envie de faire, et vous l'aidez à le faire. Magnifique projet, puisque on prend des gens de personnalités différentes, on aura donc... Et petit à petit, on a pensé qu'il fallait interviewer ces gens. Et très vite, on est passé de « à qu'est-ce que vous voulez faire ?» à « qui vous êtes ?»« Où est-ce que vous êtes né ? » ?»« Quels étaient vos parents ?» Donc le projet est devenu une émission à caractère descriptive et biographique. Donc, pour moi, une trentaine d'émissions, en gros une trentaine, j'en retiens très peu. Il y en a une, par contre, que je trouve qui me satisfait toujours. C'est parce que j'ai fait une rencontre avec quelqu'un de vraiment solide. J'en ai rencontré des gens. J'ai rencontré, grâce à Antoine Spire, avec lequel j'ai travaillé pas mal, j'ai rencontré Jules Roy, qui était pour moi une idole, parce qu'un militaire qui refuse la guerre d'Algérie, c'est quelqu'un. Et on a fait ce Bon Plaisir en une matinée. Une soirée, parce que c'était son anniversaire, pour interviewer des gens qu'il avait connus. Et une matinée où il nous a raconté sa vie et ses problèmes, etc. Et j'ai d'ailleurs pu dîner au McDo avec le général, parce qu'on n'était que tous les deux, les autres étaient partis ailleurs, à Marseille, le général Buis, qui était le grand patron de la Kabylie pendant la guerre d'Algérie. Et ça m'a fait un drôle d'effet d'être avec le général Buy, qui était un homme extrêmement particulier, parce que c'est un homme cultivé. Les généraux sont cultivés, hein, pas déconner. Hein. On n'est plus en 68, là. Les militaires ne sont pas les imbéciles, loin de là. Cultivé, amoureux de l'Algérie, aimant les Algériens. Il s'est battu contre eux, mais il était très nostalgique de cette époque. C'était pas Bijard, c'était pas Massu, quoi. Et j'ai eu le droit de nous raconter la vie, ça, c'est des choses, quoi. Et ce bon plaisir m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai fait avec une volonté illustrative, parce qu'il y avait quelque part de mon côté l'envie d'impulser quelque chose d'historique. Donc j'ai pas hésité à mettre des archives, à mettre des éléments sonores. Même ça m'a été un peu reproché, parce qu'à un moment, j'ai mis d'un instrument algérien des montagnes qui s'appelle la raïta, qui est une flûte assez dure à écouter, c'est un peu rugueux. Antoine m'a dit, tu vas pas mettre une musique comme ça, tout le monde va fuir. J'ai fait quand même, c'est tout. Mais après, personne ne me s'est plaint de ça. J'ai fait aussi, j'ai rencontré dans le bon plaisir un homme extraordinaire à mon sens, qui était Claude Mauriac. Et il se trouve que quand je rencontrais quelqu'un qui me plaisait, j'avais beaucoup plus de facilité à faire quelque chose dont j'étais fier. Je ne dis pas que c'était bien, j'étais fier, quoi. Mais quand je tombais sur des gens qui ne me plaisaient pas ou qui avaient été désagréables, c'est arrivé avec notamment René Raymond, qui, à une période où les nagras étaient encore peu usités par les chargés de réalisation, je n'ai pas pu en avoir, j'ai fait une demande de technicien et pour faire l'entretien de fond avec M. René Raymond, sommité de sciences politiques. Le technicien est arrivé en retard et c'est moi qui me suis fait engueuler. Alors je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris d'autant plus que sa vision de la droite n'est pas la mienne. Donc je me suis vengé, salement vengé, hypocritement vengé. Parce que cet homme-là, qui était un grand fervent du catholicisme sous toutes ses formes, je l'ai illustré uniquement, sur plan musical, uniquement avec des messes. D'ailleurs, pendant 3 heures, la seule musique qu'on a pu entendre, c'est des messes. Voilà, j'avais envie de me venger, quoi, c'est tout. Mais Claude Mauriac, alors là, Claude Mauriac, pour moi, c'est une révélation d'un homme extraordinaire qui nous dit j'ai quitté l'adolescence à 71 ans. Parce qu'il avait deux papas. Il avait Charles de Gaulle, dont il était le secrétaire, en 1940, dans les années de la Libération, et François Mauriac. Ça pèse très, 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 très lourd, ça, pour un jeune homme qui vieillit, et qui reste jeune homme, parce qu'on ne l'a pas laissé vieillir. Hein, et cet homme-là qui visite les prisons, c'est une mission extraordinaire. On a rencontré des gens que personne ne peut rencontrer comme ça. On a rencontré un homme en prison, qu'on a réussi à faire libérer grâce à Libération et à France Culture, un certain vent d'appui qui avait été jugé pour détention d'armes parce que la police l'avait arrêté avec des revolvers qui étaient en fait des revolvers de collection. Mais cet homme-là était noir. Voilà, ça marque l'époque aussi, mais cette époque ne change pas vite. On avait rencontré un assassin, quelqu'un qui avait tué sa femme et qui était en prison, mais chez les frères, du côté de Vézelay, dans ce coin-là, quoi. Et cet homme-là nous a parlé, les moines nous ont parlé, on a rencontré Jean Lacouture qui nous a raconté on était vraiment dans une époque de gens qui avaient fait quelque chose, quoi. Et Claude Mauriac gardait une forme de modestie, une forme d'humour, une forme de simplicité. Pour moi, c'est peut-être la plus belle émission de ma vie, quoi. 3 heures, c'est long, 3 heures, hein. Faut tenir, hein. Quand j'ai fait le bon plaisir, c'était frappant par rapport au numéritique. Bon plaisir, j'allais chez les gens, ascenseur. Nu magnétique, j'allais chez les gens rarement, parce que bistrot, terrain vague, bord de rue, et escalier. Mais rarement, le niveau économique des interviewés n'était pas le même dans le bon plaisir. C'est bon, le bon plaisir, c'était... Non, franchement, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire le bon plaisir. En plus, c'était déjà l'usine. C'est-à-dire, on a commencé un, et il fallait le terminer dans les 3 semaines. Si c'était pas le cas, ça pouvait arriver que les enregistrements commencent à plus tôt. Mais il y en avait un autre qui démarrait de toute façon 3 semaines après. Donc, à un moment, on s'investit plus. Mais c'était peut-être souhaité, hein. C'est peut-être souhaité que ce qu'on considérait à ce moment-là comme le petit personnel, reste le petit personnel.